Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour à tous et merci d'écouter Canal Académie. La littérature européenne que nous avions évoquée dans notre précédente émission nous conduit aujourd'hui auprès des écrivains voyageurs en Europe, mais aussi en France et dans le monde entier, récits, lettres, notes, carnets de voyage, journal intime. Et je pense à Valérie Larbaud et son Barnabos qui célèbrent au début du XXe siècle les paquebots, les trains de luxe, les palaces composites dans les villes d'Europe qu'il aime, mais aussi à Lotti, Sandra, dans la prose du Transsibérien en 1913, et le voyage transsibérien récent des académiciens Dominique Fernandez et Daniel Salvenave. Pierre Brunel, Francis Claudon et Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques évoquent pour nous le comparatisme en voyage, la littérature de voyage, les liens entre littérature et géographie et l'exemple du Japon. Pierre Brunel, nos auditeurs le connaissent bien, est un éminent comparatiste. Francis Claudon, professeur à l'Université Paris-Est et à l'Université de Vienne en Autriche, spécialiste du romantisme, est l'auteur, entre autres ouvrages, du Voyage romantique, des itinéraires pour aujourd'hui aux éditions Philippe Le Beau. Jean-Robert Pitt, membre de l'Institut, géographe, spécialiste du paysage et de la gastronomie, est président de la Société de géographie et président de l'Association pour le développement du Festival international de géographie. Son livre aux éditions Fayard, Le désir du vin à la conquête du monde, évoque une certaine forme de mondialisation et ses implications littéraires. Messieurs, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Pierre Brunel, quelles sont les pauses musicales pour cette émission Littérature et voyage?
Eh bien, nous avons choisi L'invitation au voyage de Baudelaire, puisqu'au fond, vous nous avez invité vous-même au voyage aujourd'hui, et non pas avec la musique de Duparc, la plus fréquemment citée, ni l'œuvre beaucoup moins connue d'Emmanuel Chabrier, mais avec la musique de Léo Ferré. La deuxième illustration musicale, liée à un auteur dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure, c'est l'œuvre célèbre de Borodine, compositeur russe cette fois-ci, dans les steppes de l'Asie centrale.
Donc nous parlerons tout à l'heure de Sylvain Tesson.
Voilà.
Du point de vue disciplinaire, Pierre Brunel, quelle est l'évolution du comparatisme en voyage de Xavier Marmier et Jean-Jacques Ampère au 19e et Thiamble au 20e? Quelle est l'évolution de cette littérature comparée et les voyages?
Alors ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que littérature et voyages, je dirais que c'est un chapitre obligé quand on évoque l'ensemble de la littérature comparée. C'est véritablement un aspect du comparatisme avec, en plus de la lecture ou de l'écriture, l'action, le voyage tel qu'en lui-même. La plupart des comparatistes qui se sont intéressés au voyage ont eux-mêmes été de grands voyageurs. Deux exemples au XIXe siècle, dans cette période où, comme vous le savez, on parle en France de littérature générale et non pas de littérature comparée, où les chaires en Sorbonne ne s'appellent pas encore littérature comparée. Deux exemples, il se trouve que l'un et l'autre ont d'ailleurs été académiciens. Jean-Jacques Ampère, qui a été par la suite professeur au Collège de France, et Xavier Marmier, qui a eu une carrière d'enseignant très brève. Il a enseigné notre discipline à l'Université de Rennes, mais je crois un ou deux ans et guère plus. Jean-Jacques Ampère a beaucoup voyagé en Italie, en particulier. Et Xavier Marmier a été un grand voyageur dans les pays du nord de la France. Il a été aussi celui qui a évoqué beaucoup d'autres écrivains voyageurs. Et ce qui est curieux, j'ai eu en main récemment un livre de Xavier Marmier, c'est qu'on a l'impression, en lisant La table des matières, qu'il est allé dans tous les pays du monde, mais en réalité, c'est qu'il rend compte bien souvent de livres qu'il a lus sur tel ou tel pays du monde. L'Égypte, par exemple, où je ne crois pas qu'il soit jamais allé.
Mais tant il est vrai qu'il peut y avoir des voyageurs immobiles.
Oui, absolument.
Mais qui ne sont pas les moins ardents.
Et puis, à l'époque récente, à l'époque de nos maîtres, donc la génération précédente des comparatistes, deux noms s'imposent. D'abord, ils ont été l'un et l'autre des voyageurs, mais ils ont représenté dans le comparatisme la littérature de voyage d'une manière, je dirais, totalement différente, totalement opposée, comme leur personnalité était d'ailleurs totalement opposée. Étiomble, qui a été grand voyageur, a consacré certains de ses livres à ses propres voyages, en particulier celui qui s'intitule « Retour du monde », publié chez Gallimard en 1970, et il y a même un chapitre sur le Japon. Et Charles Dédéon, qui a été aussi un grand voyageur, a repris un titre dont l'inventeur est Jean-Jacques Ampère, le critique en voyage. Mais là, c'est Francis Claudon qui peut mieux que moi en parler.
Francis Claudon, vous avez écrit en l'an 2000 un article sur Charles Dédéon, Charles Dédéon ou le critique en voyage. Alors Charles Dédéon, c'était le voyage intellectuel dont il parlait, mais il avait donc, comme a dit Pierre Brunel, beaucoup voyagé.
Oh, il avait une activité inlassable de conférencier qui pratiquait au fond ce que pratiquait Jean-Jacques Ampère, dont on vient à l'instant d'invoquer la mémoire, enfin l'antériorité, c'est-à-dire qu'il pensait que le tourisme, le déplacement dans l'espace, est un complément indispensable de la formation intellectuelle qui se développe ensuite dans les livres. Ceci dit, l'ordre peut varier. On peut d'abord se déplacer dans l'espace pour ensuite se déplacer dans les livres, ou on peut commencer par les livres, mais nécessairement ensuite varier dans l'espace pour vérifier la théorie et la pratique.
Donc, Dédéon, lui, était un homme qui a écrit un livre important aussi, puisque c'est le Critique en voyage ou Esquisse d'une histoire littéraire comparée en 1985, et c'est réédité chez Didier en 1998.
C'est en fait une histoire générale des littératures, mais il y a ici ou là des pages sur la littérature de voyage, sur les missionnaires en Chine, dont nous aurons l'occasion de parler une autre
émission.
Fois, ou bien sûr des pages aussi sur un sujet qu'inévitablement nous aborderons au cours de cette émission, le voyage romantique, le voyage en Orient. Un témoignage vécu, si vous le voulez bien, j'ai fait plusieurs voyages en sa compagnie, je me rappelle très bien un jour à Florence, où il y avait une célébration de Lamartine et où Charles Dédéon a improvisé un discours sur Lamartine dans un italien absolument parfait.
Eh bien, nous allons écouter Léo Ferré, ou plutôt Baudelaire, si vous voulez, Invitation au voyage.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de leurs traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté.
Jean-Robert Pitt, à partir de quand la littérature de voyage existe-t-elle ?
Oh, elle est très ancienne, elle remonte à l'Antiquité. On a des auteurs comme Hérodote ou comme Pline qui ont beaucoup voyagé, décrit le monde méditerranéen tel qu'il était, et même des contrées extérieures au monde méditerranéen, et qui ont fondé non seulement la science géographique, mais la littérature de voyage. Il y en a bien d'autres dans l'Antiquité, et beaucoup de textes se sont perdus. Donc cette connaissance du monde fait partie, est intégrante de la culture grecque et romaine, et ensuite des chrétiens. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que saint Paul est aussi un auteur de littérature de voyage, parce qu'au travers de ses lettres, de ce qui reste, de ce qu'il a pu écrire, on voit bien qu'il s'intéresse à la différence des lieux et des gens. Et au fond, c'est ça, ce qui est intéressant dans la littérature de voyage, c'est d'être sensible à l'autre et à l'ailleurs. Et l'Antiquité, donc, regorge de textes. Et on oublie parfois que le monde arabo-musulman a joué un très grand rôle aussi dans cette littérature de voyage, donc des voyageurs comme Ibn Khaldoun ou comme Al-Idrissi, comme Léon l'Africain, qui ont parcouru l'Afrique, le Proche-Orient, le pèlerinage à la Mecque a entraîné, enfin a permis à un certain nombre de voyageurs musulmans d'écrire sur les contrées qu'ils traversaient. Ce sont des textes absolument passionnants qui fondent la géographie moderne, qui ont été utilisés après pendant tout le Moyen-Âge dans le monde chrétien. Et Léon l'Africain était vraiment à cheval sur le monde musulman et sur le monde chrétien. Et sans eux, sans ces grands anciens, je pense que la littérature de voyage n'aurait pas pris un tel essor à partir du XVIe siècle, à partir de Montaigne et de quelques autres. Alors, bien entendu, il y a le Moyen-Âge aussi, n'oublions pas Marco Polo, et un certain nombre de récits aussi de navigation sur les côtes africaines qui sont très, très importants. Et puis, alors, surtout, comme on ne sait pas tout de ces voyages, ça a été une source d'inspiration pour des écrivains absolument extraordinaires. Le voyage de Christophe Colomb, par exemple, a donné lieu à des quantités de romans de voyage qui appartiennent aussi, d'une certaine manière, à la littérature de voyage.
Oui, tout à fait, parce que c'est différent de la littérature des voyages imaginaires. Là. À partir de voyages qui ont existé, des romans sont créés.
Je voudrais dire, puisque le nom a été prononcé, il est inévitable, Marco Polo, je voudrais dire à ce sujet que j'ai été très frappé en lisant le livre de Sylvain Tesson, Éloge de l'énergie vagabonde, et je voudrais remercier Jean-Robert Pitt de m'y avoir incité, par une page où il fait allusion à Marco Polo. Alors, Marco Polo voit quelque part une étendue d'eau avec de l'huile qui flotte dessus. Et évidemment, cette huile, c'est ce qui est devenu notre pétrole aujourd'hui.
Francis Ledon.
Oui, je voudrais continuer ce que disent mes amis et mes collègues. Ce qui est intéressant, au fond, il y a toujours eu des voyageurs, missionnaires, diplomates, hommes de guerre, tout ce que l'on veut, explorateurs. Et il y a toujours eu des relations de ces périples. Seulement, ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment, dans quelles conditions et pour quelles raisons ces voyages et leurs relations deviennent objets littéraires. C'est ça, le centre du débat. Et ça se passe, je crois, beaucoup plus tard.
Mais ça se passe à quelle époque, alors ?
Je crois que ça se passe à la fin du XVIIIe siècle.
Francis Ledon, l'écrivain romantique en voyage ne cherche pas le pittoresque. Il cherche surtout, il ramène tout à lui. Mais avant l'écrivain romantique, il y avait au XVIIIe le Grand Tour qui était conseillé aux jeunes hommes, et puis les hommes plus mûrs aussi le pratiquaient. Par exemple, je pense à Charles de Brosse, qui était un homme qui partit de Dijon et qui est parti en Italie, ses lettres d'Italie. Mais il y a eu aussi tout ce grand tour qui était obligatoire pour la bonne société. Alors, le mot touriste vient de là. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment voyageait-il? Et quels souvenirs en avons-nous précisément sur le plan littéraire?
Oh, le premier souvenir textuel, et je ferai une distinction entre littéraire et textuel, c'est, je crois, le livre de Thomas Nugent, 1742, qui s'appelle tout simplement « The Grand Tour », en employant le terme français pourvoyant d'un article anglais que tout le monde comprend. Et quand on lit ce Grand Tour de Nugent, on est surpris par le fait qu'il s'agit au fond d'un simple guide Michelin. Vous voulez aller de Paris à Rome, il faut passer par telle et telle ville, vous trouverez telle et telle auberge, il y a telles et telles étapes, et si vous le voulez, telle et telle curiosité intéressante à visiter. C'est un itinéraire, ça n'est pas une relation de voyage. Mais c'est un itinéraire qui se présente comme absolument obligatoire, et je me permets d'insister sur ce fait, pour le jeune homme ou la jeune personne de bonne famille qui veut devenir quoi? Au fond, ce qu'était déjà Montaigne, c'est-à-dire un humaniste complet, c'est-à-dire se faire une idée complète, diverse, des diverses civilisations, des diverses nationalités, on n'emploie pas le terme, mais c'est quand même à cela que ça revient, qui occupe l'Europe occidentale. Alors ce grand tour suit un périple qui est bien arrêté. On doit aller, par exemple, en Allemagne et dans les Alpes en été, dans la belle saison. On doit passer l'hiver en Italie, voire en Espagne, voire en Grèce, etc. Pour revenir, plein d'usages et raisons, vous voyez le transfert que je fais, qui est un peu intempestif, mais qui est au fond assez juste, je crois, pour revenir ensuite dans son pays. Pourquoi fait-on ce grand tour? Je viens de le dire, si vous me permettez, pour parfaire son éducation, mais aussi pour combattre ce que, dans une lettre à Sophie Volant, Diderot a très très bien décrit, qu'il appelle les vapeurs anglaises. Les vapeurs anglaises, c'est le spleen. Le spleen engendré par le climat, par ces brumes du nord de l'Europe, dans lesquelles on peut inclure sans aucun doute la Scandinavie et le nord de l'Allemagne. Alors, pour combattre les vapeurs anglaises, on se transporte et on médite. Et vous voyez que là, nous sommes en train de passer de la géographie à la philosophie, et nous sommes en train de passer du pittoresque à la réflexion, à la littérature, on médite sur ce qu'est la condition humaine. Et je crois que le meilleur témoignage de cette espèce de passage de l'enfance à l'adolescence, ou plus exactement de l'adolescence à l'âge de raison, c'est ce qu'ensuite, plus tardivement, 1814, si je ne m'abuse, Byron a raconté dans son pèlerinage du chevalier Harold.
Byron, qui est tout à fait caractéristique de cet Anglais qui va en Italie, comme Shelley qui lui-même meurt en Italie.
Jean-Robert Pietoui.
Oui, je pense que je suis très sensible à ce qui vient d'être dit sur la fuite du spleen et la recherche de la lumière, du soleil, de la beauté. Cette époque, surtout, je pense, à partir du XVIIe, encore plus XVIIIe et XIXe, mais je pense qu'on va aussi à la recherche des racines de la civilisation occidentale et du monde à la fois païen, antique, gréco-romain, mais aussi chrétien. Et je voudrais, si vous me permettez, citer la phrase du journal de Goethe, écrite le soir du 3 décembre 1786, du jour où il arrive à Rome. Et dans son journal, il dit « À cet endroit se rattache toute l'histoire du monde et je date une seconde naissance, une vraie régénération du jour où j'ai foulé le sol de Rome. » Et ça, je crois que ça exprime aussi assez bien ce que vont chercher ces voyageurs vers le sud. Il y a aussi, alors il y a les écrivains, bien sûr, mais il y a aussi les peintres, les sculpteurs, les architectes, les urbanistes qui vont s'inspirer de ces vestiges de la civilisation romaine, de ces grands monuments de l'Europe méditerranéenne chrétienne, et qui rapportent toutes ces idées ensuite en Occident. Et on ne peut pas comprendre cette littérature de voyage sans la lier à la transformation du paysage de l'Europe du Nord, donc la France, bien sûr, mais aussi l'Angleterre, le monde germanique, sous l'influence de ce grand tour.
Francis Ledon.
Si je puis me permettre, je voudrais donner une extension supplémentaire à cette ouverture que vient de pratiquer opportunément Jean-Robert Pitt. Lorsque, en 1798, Bonaparte part vers l'Égypte, il le fait pour des raisons militaires, diplomatiques, économiques, tout ce que vous voulez. Et comme tout le monde sait, il y a dans ses bagages, dans ses compagnons, toutes sortes de savants et un certain Vivant de Don, qui donne en 1798 la description de la voyage dans la basse et haute Égypte. Et ce qui m'a toujours frappé en lisant ce texte, c'est que jusque-là, on considérait que l'origine de la civilisation, c'était au fond la civilisation gréco-romaine, et grâce à la relation de Denon, je dis bien grâce à la relation, car elle n'est pas le seul, il y a eu Volney aussi qui a fait la même expérience, mais le livre a eu moins de succès que celui de Denon. Grâce à la relation de Denon, à la description de la basse et haute Égypte, tout d'un coup, l'immensité du temps s'ouvre à ceux qui ont l'esprit philosophique. Et l'énigme d'une civilisation dont on ne savait pas déchiffrer et les caractères et les critères, les signes, l'empire des signes, pour reprendre l'expression fameuse, ça provoque l'intérêt de ces voyageurs. Et à ce moment-là, on découvre une autre dimension du tourisme, c'est-à-dire une dimension qui est à la fois ethnographique et civilisationnelle. Le voyage est l'occasion de définir ce qu'est la civilisation. Ça n'est plus seulement l'occasion de combattre le spleen, ça n'est plus seulement l'occasion de se révéler un parfait gentleman qui connaît aussi bien la façon dont on s'habille pour le carnaval de Venise que comment on danse la valse à Vienne. Ça devient une occasion de méditer sur la civilisation et les racines et la relativité des civilisations. Ça, c'est passionnant parce que ça se passe en l'espace de 40 ans à peu près.
Vivant de Nantes, peut-être le rappeler au passage, qui a été en quelque sorte le premier directeur du Louvre.
Oui.
Et puis, moi j'aimerais ajouter ceci, c'est qu'il y a eu récemment, assez récemment, en 1996, un livre d'une de nos collègues très chères, Marie-Madeleine Martinet, sur le voyage d'Italie dans les littératures européennes, un livre qui va jusqu'à l'époque contemporaine, hein, c'est-à-dire que du grand tour traditionnel, elle va jusqu'au voyage en Italie des écrivains d'aujourd'hui. Il y a par exemple une longue évocation de Thomas Mann, de la mort à Venise. Le grand tour existe toujours quelque part dans notre culture d'aujourd'hui.
Et c'est une bonne chose. Jean-Robert Pitt.
Juste un petit mot, dans cette expédition d'Égypte qui vient d'être évoquée, qui est quand même un moment très important de l'histoire des sciences, de l'histoire de la littérature aussi, parce que ces très nombreux volumes sont un très beau texte. Il y avait un personnage important qui s'appelle Edme François Jomard et qui va devenir l'un des fondateurs de la Société de Géographie en 1821. Il a consacré l'essentiel de sa vie à rédiger tout le journal de l'expédition d'Égypte et il fonde la Société de Géographie avec des gens qui ne sont pas géographes de profession. Il y a Laplace, il y a Chateaubriand qui sera des premiers présidents de la Société de Géographie. Donc la littérature et la géographie, la littérature de voyage et la géographie sont vraiment profondément liées dès l'origine.
Alors j'ignorais complètement le rôle de Chateaubriand comme fondateur de la Société de géographie, mais je crois que ça nous introduit à ce sujet essentiel, parce que c'est un sujet vivant, c'est-à-dire qu'il y a une relation profonde entre littérature et géographie, entre écrivains et géographes. Il y a des écrivains qui se découvrent une vocation de voyageur, parfois même d'explorateur. Il y a des géographes qui se découvrent écrivains, et je crois que c'est un sujet sur lequel il est pour nous très très important de nous pencher.
Jean-Robert Pitt, parlez-nous de la Société de géographie dont vous êtes président.
Alors, la Société de géographie s'appelle de ce simple nom, pas de Paris, pas de France, parce que lorsqu'elle a été créée en 1821, il n'y en avait pas d'autre. Quelques années plus tard se créeront celle de Berlin, celle de Londres, mais celle de Paris gardera le nom de Société de géographie tout court, donc fondée par les grands esprits de l'époque de la Restauration, et qui vit toujours aujourd'hui, dans son siège et boulevard Saint-Germain, et qui a attiré énormément de membres non géographes de profession. D'ailleurs, profession géographe, ça n'existait pas. Le géographe du roi, c'était le cartographe au XVIIe et au XVIIIe siècle, celui qui fait des cartes. Les Cassini sont géographes du roi, par exemple, ou ceux qui font les plans reliefs. Mais la Société de géographie est une société qui accueille des gens qui voyagent ou qui ont besoin de la connaissance des mondes extérieurs dans leur métier. Ils sont militaires, dans la marine ou dans l'infanterie, souvent donc dégradés, hein, des hauts gradés. Ils sont commerçants, ils sont missionnaires, ils sont politiques. Et donc, il y aura dans la Société de géographie, tout au long du XIXe siècle, des quantités de gens qu'on ne s'attend pas à y trouver. Par exemple, la plupart des souverains d'Europe. Il y a une époque où Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, qui fera un don important à la Société de géographie, mais aussi le roi des Belges, mais aussi les princes héritiers d'Angleterre, différents souverains d'Allemagne, travaillent ensemble, se rencontrent. Donc, il y a une véritable émulation autour de la connaissance géographique et beaucoup sont de grands écrivains. Et si vous me permettez, je voudrais en citer un qui est très important, dont nous sommes très fiers, qui est un de mes lointains prédécesseurs. À l'époque, au 19e, on était président un an. Mais on continuait à jouer un rôle. Et en 1845-46, le président, c'est Alexandre de Humboldt, qui est sans doute le dernier grand encyclopédiste. C'est-à-dire qu'il est autant botaniste, géologue, ingénieur, cartographe, dessinateur, biologiste, écrivain, philosophe, politicien aussi, il écrit sur la condition des Indiens, il écrit contre l'esclavage, il a vraiment une connaissance encyclopédique des choses et il va signer évidemment la plus belle des explorations de l'Amérique latine, la remontée de l'Orénoque. Il maîtrise parfaitement le français puisque sa mère est d'origine huguenote et c'est quelqu'un qui développe une géographie que, malheureusement au XXe siècle on a un peu perdu avant de la retrouver maintenant en ce début du XXIe siècle. C'est une géographie qui ne fait pas la différence entre les faits qu'on appelle physiques et les faits humains, qui mêle les deux sans aucun déterminisme, qui montre comment les hommes façonnent le visage du monde, façonnent la planète avec beaucoup de liberté, et c'est certainement un très grand humaniste dont l'un des successeurs à la fin du siècle, le grand géographe, qui a été un membre éminent de notre société, Vidal de la Blache, qui a eu la première chaire de géographie à la Sorbonne.
Vidal de la Blache, c'était en lien avec Lavis.
Alors Vidal de la Blache parce que c'était le géographe le plus connu de l'époque, donc s'est vu commander par Lavis. Parfois, les historiens n'ont pas du mépris, mais tout petit peu de condescendance vis-à-vis des géographes. Et Lavis a demandé à Vidal de la Blache, pour sa grande histoire de France, 20 volumes, je crois, « Faites-moi donc l'introduction », qui est le fameux tableau géographique de la France, qui est un superbe livre magnifiquement écrit. Mais en gros, ce que demande Lavis, qui n'a pas une vision de la géographie très claire, c'est « Plantez-moi le décor ». Nous, après, on va mettre ce qu'il faut dedans, on va mettre les acteurs, on va expliquer comment ils ont agi. Et Vidal de la Blache dépasse de beaucoup le propos. Ce n'est pas les montagnes, les fleuves et les climats qu'il décrit, c'est la France telle qu'elle est, qu'il a parcourue en tous sens. C'est un géographe qui écrit, mais qui fait du terrain, comme on dit, qui prend son bâton et qui parcourt toute la France, quelques autres pays aussi, les États-Unis par exemple, mais qui est un géographe extrêmement sensible à la réalité des choses et qu'on peut considérer certainement comme un grand écrivain.
Vous me permettez de dire quelque chose d'un peu anecdotique là ? Charles Péguy, qui avait fait ses études à l'École normale et à la Sorbonne, avait pris la Sorbonne en exécration, et c'est l'une des raisons pour laquelle il avait installé la boutique des cahiers de la Quinzaine en face de la Sorbonne. Il faisait une exception, c'était Vidal de la Blache. En revanche, il n'aimait guère Lavis, vengeance du géographe.
Et le fils de Péguy est devenu géographe. Péguy a beaucoup influencé un grand géographe grenoblois qui est Blanchard, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ma jeunesse sous l'aile de Péguy », qui était le géographe des Alpes, 7 volumes énormes, publiés dans les années 50 et 60.
Et de nos jours, les écrivains voyageurs, à notre époque, Jean-Robert Pitt.
Il y en a deux, il y en a beaucoup, deux que j'aimerais citer, qui sont des contemporains et des amis, qui sont Sylvain Tesson et Éric Orsenna, qui ont énormément voyagé tous les deux, et en prenant des risques, des voyages difficiles. Sylvain Tesson encore plus, puisque c'est outre son... Il est géographe de formation, ce qui n'est pas le cas d'Éric Orsenna, qui est un économiste, mais un économiste très sensible à la réalité des choses de la surface terrestre. Sylvain Tesson est en plus un escaladeur de cathédrale. Et il a escaladé de nuit, de préférence, les flèches de Notre-Dame, un certain nombre de monuments, sans s'encorder, en prenant beaucoup de risques. Mais ça, c'est son côté un peu... décalé, voire déjanté, je pense qu'il accepterait volontiers qu'on puisse dire ça de lui. Mais tous ses livres, On a roulé sur la terre, Himalaya, Vision de marcheur des cimes, La marche dans le ciel, 5000 km à pied à travers l'Himalaya, La chevauchée des steppes, 3000 km à cheval à travers l'Asie centrale, et son dernier livre qui lui a valu le prix Médicis, Dans les forêts de Sibérie, qui est paru en 2011. Il y a celui-ci aussi, bien sûr, mais Dans les forêts de Sibérie, qui est un livre qui relate son ermitage de plusieurs mois, presque une année entière, au bord du lac Baïkal, et qui est un très très beau livre, même s'il est très arrosé de vodka.
Ceci explique peut-être cela.
En le lisant, on se le demande, oui, si. Pas une relation entre la beauté du style et la quantité de vodka ingérée pendant ce séjour.
Moi, j'ai lu avec passion Éloge de l'énergie vagabonde, un écrivain qui a à peine 40 ans.
Oui, hein. Oui.
Et ce livre m'a beaucoup frappé, non seulement par le courage extraordinaire de ce voyageur qui est tantôt à bicyclette, tantôt à pied, qui est capable de couvrir plus de 200 kilomètres à pied quand il va d'un lieu à un autre. Cet écrivain qui vit le voyage comme une dépense d'énergie dans l'instant, ce qui donne, selon lui, son sens à la vie. Et alors là, des formations peut-être professionnelles. Hein. Tout au long de ma lecture d'Éloge de l'énergie vagabonde, j'ai pensé à un autre écrivain qui m'est cher, Arthur Rimbaud. Il se trouve que Arthur Rimbaud, après avoir renoncé à la poésie, après avoir renoncé à toute littérature, a publié un texte, aussi curieux que cela puisse paraître, dans le bulletin de la Société de géographie, hein, son rapport sur l'Ogadine. Grâce à Jean-Robert Pitt, nous avions pu organiser au siège de la Société de géographie un colloque sur Rimbaud géographe, hein, passionnant. Plus de la moitié des intervenants étaient des géographes, avec bien entendu l'expérience de l'Abyssinie, l'expérience d'Aden. Et en lisant Sylvain Tesson, j'ai été très très frappé à cela. Je voudrais dire aussi, c'est tout à l'honneur de la modernité de la Société de géographie et du bulletin de la Société de géographie, que le dernier bulletin que j'ai reçu, qui est bel et bien le dernier, se termine par un texte de Sylvain Tesson.
Sylvain Tesson, qui nous consacre une chronique. Pierre Bonnel, qui a écrit cette phrase ? Voyager, c'est faire voir du pays à son ennui. C'est Tesson ou c'est Rimbaud ?
Ça n'est pas Rimbaud. Voilà.
Non, bien sûr, c'est Sylvain Tesson.
Mais il est vrai que quand on lit Sylvain Tesson, il y a une poésie qui est toujours là, parce qu'il est touché partout, parce que c'est un géographe qui ressent tout le plaisir des paysages de toutes sortes. Donc il a effectivement un côté poétique, et on ne parle pas que de pétrole, on ne parle pas que de souffrir à marcher et mettre un pied devant l'autre dans les livres de Sylvain Tesson.
C'est le sens de notre émission d'aujourd'hui et de la progression que nous avons adoptée. Nous étions dans l'Europe, uniquement dans l'Europe, la fois dernière, et là, nous avons affaire à des écrivains qui sont à la recherche du monde, qui sont, pour reprendre le titre du livre de Jean-Robert Pitt, Le désir du vin à la conquête du monde, qui sont, d'une certaine manière, à la conquête du monde. Et ce n'est pas un hasard si, en lisant le livre de Jean-Robert Pitt, on découvre cette conquête de telle ou telle partie du monde par le vin, comme il y a apparition du voyageur à de certains moments dans des endroits inattendus, dans des endroits inhabités, dans cette steppe qui, pour Sylvain Tesson, est le désert en réalité.
Tandis que pour moi, c'est ma cave, parce que le voyageur immobile peut se contenter d'un tire-bouchon et voyager à travers ses bouteilles et comprendre la diversité du monde au travers du vin. Ce n'est pas une plaisanterie.
Vous Mais avez pas l'air... du tout. J'ai bien compris que c'était une véritable conquête culturelle que vous faisiez depuis le fond de votre cave.
Et je voudrais dire que la littérature est très présente dans le livre de Jean-Robert Pitt. Bien sûr, avec le poète persan Omar Khayyam, par exemple.
Ouais, hein,
et ses quatrains, avec Abou Nouas. Avec cette lente pénétration du vin dans les pays d'Extrême-Orient, vers lesquels peut-être nous allons nous diriger à la fin de cette émission et au cours de la prochaine émission, ça pourrait nous introduire au Japon.
À propos d'Éric Orsenna, quels sont ces quatre livres qui sont vraiment des livres de géographie ?
Éric Orsenna est un économiste et qui décrit souvent des faits économiques, mais qui les habille d'humanité. Et il décrit beaucoup, beaucoup les acteurs avec infiniment de talent. Et on voit cela dans son Voyage au pays du coton en 2006.
Le Gulf Stream aussi.
Il y a le Gulf Stream, ça fait 5. Donc, je vais penser au Salut au Grand Sud, livre qu'il a écrit avec Isabelle Autissier au cours d'un voyage en Antarctique. L'avenir de l'eau, qui est un livre un peu austère, parce que c'est de l'eau, mais qui est quand même très très passionnant sur les problèmes de disponibilité en eau à la surface de la Terre. Et son dernier, qui est très très beau, parce que là on voit bien le lien entre géographie, économie et littérature, c'est Sur la route du papier, où il rend un hommage d'écrivain au papier sans lequel la littérature n'existerait pas.
Alors le vin donc, la conquête culturelle du vin qui nous emmène un peu partout, un peu moins en islam quand même.
C'est... Et encore
non, non, l'islam est fasciné par le vin parce qu'il lui est interdit théoriquement sur la terre, mais un musulman qui connaît son Coran par cœur rêve du vin qu'il boira puisqu'il en coulera des fleuves au paradis. Donc c'est vraiment un voyage imaginaire extraordinaire que le vin dans le monde. C'est pourquoi d'ailleurs les plus belles poésies écrites sur le vin sont des poésies écrites en arabe ou en persan.
Et le vin est présent dans les mille et une nuits, comme cela
partout.
Est très très bien montré dans le livre
partout,
de Jean Verpé.
Partons maintenant au Japon. Le Japon, c'est effectivement un petit peu aussi une chasse gardée de vous, Jean-Robert Pitt.
Vous avez...
s'est beaucoup protégé contre le vin, le Japon, pendant longtemps en tout cas.
Oui, non, non, le Japon, je le fréquente avec passion et affection. J'y trouve beaucoup d'inspiration dans ma vie depuis plus de 30 ans. Et je crois que le Japon a fasciné tous ceux qui y ont voyagé. Donc bien sûr, je parle des Occidentaux et des Français en particulier. On pense à Claudel, on pense à Nicolas Bouvier, qui a écrit de très belles pages sur le Japon, à Paul Mousset, un certain nombre d'autres, à Roland Barthes aussi, qui ne connaissait pas le Japon, mais qui en quelques jours de son premier séjour donc, a écrit « Cet empire des signes », qui est une série de petits coups de projecteur sur des réalités qui le frappaient et qui est un livre, je trouve, extrêmement bien vu. Moi, que j'ai toujours fait lire à mes étudiants comme initiation à la culture japonaise, de la part de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup lu sur le Japon, mais qui a compris beaucoup de choses. Donc le Japon est fascinant parce que c'est sans doute, me semble-t-il, le pays le plus exotique qui soit pour un Français. Alors qu'en apparence, bon, il y a des voitures partout, il y a des gratte-ciels, il y a du béton, il y a des métros, donc il y a plein de choses qui sont comparables à ce que nous avons en Europe occidentale et à Paris. Mais à côté de cela, les Japonais, dans leur espace, dans leur archipel, sont tellement originaux et entretiennent avec leur territoire un lien si fort que pour un géographe, c'est une expérience fascinante. Et il y a de très bons géographes. Moi, je ne suis pas un vrai spécialiste du Japon, mais je pense à mes collègues Philippe Pelletier de l'Université de Lyon ou à Augustin Berck, qui est autant géographe que philosophe, qui ont quand même aidé à comprendre en profondeur cette relation à l'espace. Et même si leurs livres ne sont pas des récits de voyage à proprement parler, ils ont quand même une vraie valeur littéraire, je trouve.
Eh bien, maintenant, nous allons passer à la New Littérature comparée, Pierre Brunel. Où en est-on ?
Eh bien, dans ce domaine, comme dans d'autres... La littérature comparée évolue et c'est bien, c'est une satisfaction intellectuelle et c'est aussi le signe d'une véritable vie de cette discipline. Donc, pour ce qui est de la relation entre littérature de voyage et littérature comparée, une évolution s'est produite dans les dernières décennies, surtout dans les dernières années, avec une insistance plus grande sur les recherches concernant l'exotisme, je pense là aux travaux de Jean-Marc Mourat, avec cette nouvelle dénomination qui a été inventée par un de nos collègues, professeur de l'Université de Limoges, Bertrand Westphal, la géocritique, avec une ouverture aussi sur tous les pays du monde. Je crois que là, ce que Etiamble avait passé sa vie à prôner, c'est-à-dire l'évolution d'une littérature comparée à une littérature universelle. Il n'a pas hésité à donner ce titre à l'un de ses derniers livres. Se produit à partir du moment où l'espace envisagé par les recherches en littérature comparée est l'espace du monde entier.
Eh bien, à propos du monde entier, la prochaine émission, nous partirons pas loin du Japon, en Chine. Merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.